My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I'll show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Ravie de vous retrouver, mes chers auditeurs et chères auditrices, dans Les Enfants du Nouveau Monde. Ce mois de décembre, j'ai bien envie de le consacrer à un sujet qui devient de plus en plus brûlant dans les milieux politiques, notamment. C'est le revenu de base. Alors, on peut l'appeler aussi le revenu d'existence, le revenu inconditionnel. On en entend de plus en plus parler. Il s'agirait donc d'un revenu qui serait alloué à tout à chacun, sans aucune condition, et qui donc permettrait l'existence, permettrait de donner des moyens d'existence à chacun. Ça fait rêver comme ça quand on en parle, mais ce n'est pas simplement une utopie. Aujourd'hui, cette idée-là est de plus en plus étudiée par tous les milieux politiques. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que de droite comme de gauche, c'est une idée qui rassemble. Et nous allons nous y pencher aujourd'hui avec mes deux invités qui viennent du Mouvement français pour le revenu de base, donc qui est un réseau national de plein de petits groupes locaux qui se relaient pour essayer de diffuser, d'infuser cette idée dans la société. Donc merci de m'avoir rejoint, Valérie Vy.
Bonjour.
Bonjour, avec ce joli nom de famille. Valérie, tu es psychanalyste, botaniste et vidéaste. Et tu as initié les premiers débats sur le revenu de base en amenant le film qui s'intitule « Le revenu de base » en France.
Oui, c'était voilà. Il y a quelques années.
Oui, déjà. Et Joseph Pronesti, bonjour.
Bonjour.
Donc, toi, tu es retraité, engagé dans l'aide aux personnes défavorisées et gestionnaire d'une épicerie sociale et solidaire. Tu es également le cofondateur du groupe local du Mouvement français pour le revenu de base dans le Gard.
Exact.
Voilà. Alors, déjà, préciser qu'il y a donc plein d'informations sur ce sujet sur Internet, notamment grâce au réseau dont vous faites partie, donc le Mouvement français pour le revenu de base, le MFRB. Voilà. Et c'est très simple d'aller sur Internet pour avoir accès à ces informations. Il suffit de taper revenudebase.info.
Oui.
Alors, déjà, comme je l'ai dit, on en parle de plus en plus en politique. Il y a des vraies expériences qui sont menées actuellement sur le revenu de base. Dans l'Ontario, au Canada, ça y est, dès 2017, tous les citoyens vont recevoir une allocation de 1 000 $ canadiens par mois, ce qui fait à peu près l'équivalent de 900 €.
Oui.
Donc voilà, on y est, c'est concret, on y va. La Finlande, qui l'expérimentait déjà depuis quelques années sur un panel de personnes, souhaite aussi le mettre en place pour tous les citoyens sans condition dès 2017. Et puis en France, la région précurseur, c'est l'Aquitaine.
Oui.
Tu peux nous en parler, Valérie ?
Oui, ce n'est pas la première région à vouloir tenter une expérience, mais d'accord, c'est la première qui a obtenu à l'unanimité l'accord, donc à la présentation de la motion. Au préalable, il y avait eu la région PACA qui avait tenté le coup et qui n'avait pas réussi à passer la motion.
Alors l'idée là, c'est de faire de ce revenu de base un droit civique, un droit pour tous les citoyens ?
L'idée, c'est de disséminer cette idée nouvelle au travers de l'expérimentation, parce que la théorie est assez complexe. Il y a l'aspect politique, il y a l'aspect philosophique, il y a l'aspect économique. La plupart des gens peuvent avoir une image un peu floue de c'est quoi le revenu de base. En l'expérimentant concrètement sur des populations, ça peut être d'autant plus porteur. Si c'est réussi.
Alors, quels sont les freins, justement, au niveau, on va dire, philosophique ou de l'état de conscience de la société? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque, cette idée-là?
Qu'est-ce qui bloque à l'échelle de tous les individus? J'en sais rien, je ne les ai pas tous rencontrés, mais pour avoir généré pas mal de débats autour de la question, il me semble qu'une des premières choses qui pourrait faire frein individuellement, après il y a l'aspect politique, mais chez la personne humaine, c'est justement, incroyablement, ce qui porte l'idée du revenu de base, à savoir la difficulté de la vie. La première réaction, c'est « j'en ai tellement bavé, pourquoi je permettrais à d'autres de ne pas en baver autant que moi ?» C'est pas le plus joli, la plus c'est jolie pas caractéristique c'est humaine, pas... mais c'est « moi j'en ai trimé pour survivre, pourquoi je donnerais à d'autres ?» de l'argent sans contrepartie, alors qu'on en a tant demandé de contrepartie.
Après, il y a aussi la difficulté de même d'y croire pour soi-même, c'est-à-dire d'y croire pour la société, d'y croire pour nous tous, de se dire, mais est-ce que c'est seulement possible que chacun reçoive un revenu d'existence sans contrepartie, c'est-à-dire sans avoir besoin de travailler pour cela?
Oui, parce que c'est la première idée, c'est qu'on va donner un revenu sans contrepartie. Et c'est là que ça vaut le coup de réfléchir, parce que justement, c'est faux. La contrepartie existe déjà, en fait. C'est-à-dire, on peut le voir concrètement au quotidien, quand on va faire ses courses et qu'on pèse soi-même ses légumes, et qu'on fait soi-même son plein d'essence, et qu'on fait soi-même son petit colis qu'on va mettre à la poste, on a, en termes d'activité, une activité qui, avant, était rémunérée. C'était des postes de travail. On a tous, inconsciemment, accepté que des gens aillent au chômage. En mettant notre carte bleue dans des machines à la place de donner de l'argent à des êtres humains, comme au péage du parking, comme aujourd'hui dans les supermarchés, puisqu'on peut passer soi-même les produits à la caisse dans plein de supermarchés, on accepte involontairement, certainement, inconsciemment, sans réfléchir, de prendre le travail qui a avant été rémunéré. Donc on devient producteur de richesses, puisqu'avant c'était un employé qui le réalisait. On maintient cette production de richesses, on maintient ce poste, mais on le fait bénévolement. Donc ça n'est pas sans contrepartie. La contrepartie existe déjà. On est déjà producteur de richesses.
Et en même temps, contrairement à ce qu'on pourrait dire habituellement, mais c'est triste, mais du coup, on va perdre des emplois. C'est quand même très émancipateur, puisqu'il y a tout un tas d'emplois qui étaient assez tristes à exercer au quotidien et qui n'apportaient pas une vraie réalisation des personnes. Donc, quelque part, c'est aussi heureux, j'ai envie de dire, cette automatisation, cette robotisation qui remplace le travail humain un peu rébarbatif par les machines, ça libère les humains pour faire autre chose. Mais à un moment donné, on se retrouve avec ce problème, c'est-à-dire que sur le marché du travail, il n'y a plus de travail pour tout le monde. Donc, comment on fait pour qu'il y ait des revenus pour tout le monde?
Exactement.
C'est bien là la question.
D'où l'idée. L'idée du revenu de base, elle vient de là. Elle vient du constat que cette idée que nous avions, que le capitalisme a eue et pour lequel quasiment la majeure partie du monde a opté, à savoir le plein emploi, a échoué. Et ça n'a pas échoué pour des mauvaises raisons, ça a échoué parce qu'on a été suffisamment malin pour remplacer des travaux laborieux par des machines, parce qu'on a été suffisamment malin pour réduire le temps de travail. On s'est simplifié à la vie, c'était d'ailleurs le projet du capitalisme qu'on a choisi à l'époque où on avait le choix entre deux, le communisme et le capitalisme, à l'époque des deux grands blocs. On a opté pour le capitalisme, donc on a opté pour libérer l'humain du labeur et du travail difficile. On y est là aujourd'hui. Le plein emploi, c'est un échec. Par contre, l'activité humaine est toujours là. L'idée d'un revenu de base, c'est l'idée d'un monde, d'une société de pleine activité et non plus de plein emploi puisqu'on n'a plus d'emploi.
Remplacer l'idée du plein emploi par la pleine activité. C'est là qu'il y a un grand changement de conscience et de mentalité.
Complètement.
Et c'est là que c'est dur. Et c'est là que ça bloque un petit peu dans la société parce que on a l'idée que activité égale travail et qu'on a vraiment pris l'habitude de laisser tomber ce qu'on aurait envie de faire pour faire ce qui nous rapporte de l'argent. Donc là, ça serait peut-être remettre les choses à l'envers, ou plutôt à l'endroit.
Oui, et peut-être aussi réfléchir tous ensemble à redéfinir les mots qu'on prononce parce qu'il y a l'emploi, il y a l'activité et il y a le travail. Il y a trois choses différentes. L'activité humaine, c'est tout ce qui nous fait bouger, c'est le mouvement, c'est tout ce qu'on fait tous les jours, qu'on produit, qu'on coiffe les cheveux d'une vieille mamie, qu'on aille couper son gazon, qu'on aille réparer sa voiture, ce sont des activités. Le travail, c'est l'activité qui introduit une petite notion de torture, c'est-à-dire c'est le labeur, c'est ce qui est un petit peu difficile et que certains rechignent à faire, mais qu'on doit faire.
Je me permets la parenthèse, la petite notion de torture, elle est dans l'étymologie du mot travail, à ce qui paraît, hein, trépalium, torture. Hein, donc voilà, ça serait sympa de s'en émanciper un jour.
Exactement.
Et le troisième.
Et ensuite, il y a l'emploi. L'emploi, c'est quoi ? C'est l'activité humaine laborieuse, donc qui passe aux notions de travail et qui en plus est sous une certaine forme de contractée, c'est-à-dire avec des conditions très strictes qui sont un temps de travail, des activités définies et des comptes qu'on doit rendre à une entreprise. Donc c'est trois mots différents et ça vaut le coup quand on parle justement de nous, entre nous, de pouvoir être clair sur ces trois choses différentes. Le revenu de base, c'est pour rémunérer l'activité humaine productrice de richesse.
Ça ne remplace pas l'emploi. Sachant que la production de richesse, il suffit d'être en vie pour être producteur de richesse. Regardez un enfant, il est plein de joie, plein d'énergie, il déclenche des sourires autour de lui par ses moindres réflexions ou par ses plaisanteries. Il est créateur de richesse, ça c'est de la richesse. Et donc le revenu de base envisagerait aussi d'être pour les enfants, c'est-à-dire que toute personne, à partir du moment où elle existe, elle est sur Terre, elle est en vie, aurait ce droit, ce serait un droit dans la Constitution, aurait le droit de recevoir un revenu pour exister.
De la naissance à la mort.
De la naissance à la mort, ouais. Voilà. C'est quand même une grosse révolution de mentalité, hein. Et très enthousiasmante. Donc, je voulais juste repréciser une chose. On parle de croissance, on nous fait rêver avec cette croissance qui nous permettrait de retrouver le plein emploi, etc. Quand on étudie cette question, on se rend compte que la croissance n'égale pas forcément des créations d'emplois, déjà.
Non.
Bien au contraire. Non. Aujourd'hui, on voit que pour accéder à la croissance, il faut justement avoir un minimum de salariés parce que c'est ce qui coûte cher. Donc voilà, en fait, ça ne crée pas de l'emploi. Donc ça, c'est une illusion. Et que donc le marché du travail ne peut plus intégrer les personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plein d'actions, de réinsertion, de contrats, d'avenir, de je ne sais quoi. Et puis on voit bien que ça ne mène à rien. Là, je vais vous donner la parole à Joseph, parce que c'est le
sujet. Je voulais juste aborder le problème sous un autre angle. Toutes les personnes politiques, je dis bien toutes les personnes politiques qui aujourd'hui nous parlent qu'elles vont générer un plein emploi, toutes ces personnes, c'est des menteurs.
Parce que menteuses. Je le redis parce qu'il l'a dit dans sa barbe. Hein.
Parce que il y a l'Organisation internationale du travail qui émet des rapports. Le dernier rapport qu'elle a émis fait peur, fait froid dans le dos, parce qu'il nous parle d'un chômage structurel de l'ordre de 15%. Chômage structurel, c'est-à-dire quoi que l'on fasse, on aura ce socle de chômage. Et cette Organisation internationale du travail préconise aux États de mettre en place des mesures pour venir en aide aux personnes qui seraient au chômage, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça, sauf à aller vers des conflits sociaux assez violents et brutaux. Donc le revenu de base, à l'heure actuelle, le revenu de base est une des solutions, je ne dis pas que c'est la solution, est une des solutions pour pouvoir permettre aux gens d'avoir des filets de sécurité et se prémunir contre cette pénurie de travail qui arrive, j'y parle d'ici 2017-2018, on va l'avoir.
Oui, mais un chômage structurel, c'est un chômage qui est lié à l'organisation de l'économie actuellement. Et en fait, on ne peut rien y faire. On ne pourra pas revenir en arrière. On est allé quelque part. Si l'économie a pour objectif de répondre à nos besoins de consommation, de nous vêtir, de nous abriter, etc., etc., de nous divertir, on peut dire que le capitalisme a été très efficace. Parce que là, on répond au-delà de nos besoins. Ouais. Et pour ça, on a besoin de moins en moins de travailleurs. Donc, faisons autre chose. Soyons joyeux, profitons-en. Mais par contre, pour cela, il faut vraiment regarder la situation en face, ne pas se voiler la face, ne pas se mentir, et dire, bon, qu'est-ce qu'on instaure pour ne pas laisser tous ceux qui n'ont pas d'emploi sur le bas-côté.
S'il y a des auditeurs qui ont des doutes, ils n'ont qu'à reprendre le rapport du numérique qui a été rendu en janvier 2016, qui a été remis au ministre du Travail, et le rapport sur le numérique, ce qu'on vient de parler, sur les pertes d'emplois liées à la robotisation, à la numérisation, en parle et préconise, ce rapport préconise la mise en place d'un revenu de base, parce qu'on va vers ce chômage structurel et qui est acté. Donc c'est pour ça que tout à l'heure,
oui, ça va être présenté au Sénat.
En préambule, je disais, toutes les personnes qui nous font miroiter le plein emploi, c'est des charlatans.
Alors, par contre, la question souvent qu'on va entendre par rapport à ce débat sur le revenu de base, c'est oui, mais si on a le revenu de base tous, est-ce qu'on va encore avoir envie d'aller travailler ? Parce que même s'il y en a 15% qui sont au chômage, les autres, ils travaillent. Et s'ils ont le revenu de base, est-ce qu'ils vont continuer ?
Mais pour un exemple, je prendrai juste mon exemple. En tant que retraité, moi, je pourrais dire j'ai ma retraite, j'ai mon revenu de base, puisque c'est ma retraite. C'est pas pour autant que je reste toute la journée à la maison, à rien faire, puisque je m'occupe d'associations. Je sors de la maison, je continue à vivre et je continue à faire ce que je faisais par avant. N'importe quelle personne qui touchera le revenu de base, peut-être que dans les premiers temps, ils vont me dire mais je vais faire la grasse matinée, ou je vais aller à la pêche, ou je vais aller jouer aux boules, mais ça ne dure qu'un temps. Après, automatiquement, l'être humain, on revient vers la création de richesses, vers l'innovation, vers la mise en place de procédés qu'on a besoin. On a besoin d'aller vers le contact, on a besoin de créer autre chose. Donc c'est faux, le fait de dire qu'un revenu de base va générer des feignants ou de la paresse, c'est complètement faux.
Dans cette société sans emploi, pas de revenus à la fin du mois, au chômage ou au RSA, on nous parle d'assistanat. Il n'y a pourtant plus d'emploi pour tout le monde. Faudrait un revenu pour rester dans la ronde. Mais les braves, j'en aime pas con, ne travaillent plus comme des cons. Mais les braves, j'en aime pas con, sois libre de bosser ou non. Il faut s'insérer dans l'emploi. Le travail libre, ça va pas de soi. Quand vient le jour du 1er mai, les syndicats ont oublié l'abolition du salariat, cela ne les regarde pas.
Il n'y a pourtant plus d'emploi pour tout le monde, le temps est venu d'une réforme profonde. Mais les braves, j'en aime pas con, ne travaillent plus comme des cons. Non, les braves, j'en aime pas con, remettent le travail en question. Il faut s'insérer dans... Facile à dire quand on en a. Quant aux travailleurs immigrés qui enrichissent la société, un revenu de citoyenneté garantirait leur dignité. Il n'y a pourtant plus d'emploi pour tout le monde. Partageons la richesse qui abonde. Mais les braves, j'en aime pas con, ne travaillent plus comme des cons. Non, les braves, j'en aime pas con, sois libre de bosser ou non. Faut s'insérer dans l'emploi. Avoir le choix, certainement pas.
Le travail subordonné, nous pourrions nous en libérer. Loin du mythe de l'oisiveté, choisir son activité.
Être payé pour pouvoir travailler et ne pas perdre sa vie à la gagner. Mais les braves, j'en aime pas con, ne travaillent plus comme des cons. Non, les braves, j'en aime pas con, remettent le travail en question.
Car le travail, c'est la santé. Et plein emploi, c'est du passé.
Vous écoutez Les Enfants du Nouveau Monde. Aujourd'hui, on s'intéresse aux revenus de base. Alloué à chaque individu de sa naissance à sa mort, le revenu de base ou revenu inconditionnel se définit par 4 critères. Garantir l'existence et permettre la participation sociale, constituer un droit individuel, être versé sans avoir besoin de prouver un dénuement quelconque et ne pas impliquer l'obligation de travailler. Mes invités, Valérie Vie et Joseph Pronesti, cofondateurs du groupe Gardois du mouvement français pour le revenu de base, viennent de démonter l'illusion qu'instaurer le revenu de base pour tous créerait une société de feignants.
Après, cette idée-là, elle est peut-être basée sur une réalité, c'est que une des plus grandes frustrations de l'humanité, c'est vraiment de perdre sa vie à la gagner.
À la gagner.
Et que du coup, ça fait des générations et des générations que les gens aimeraient faire sans doute autre chose, mais se consacrent à des activités qui ne sont simplement qu'alimentaires. Et que du coup, quand on leur parle d'un revenu de base, oh là là, j'imagine les premières images qui viennent, c'est farniente, c'est repos, relaxation, voyage, loisirs. Et c'est peut-être pas des activités qui, pour eux, sont symboles de création d'une société, etc. Mais comme tu l'as dit, Joseph, c'est un premier temps. Il y a sans doute un temps de repos nécessaire. Et ensuite, on reprend des activités parce que c'est humain. On a besoin d'être actif et de faire des choses et d'être fier de soi et de se sentir créateur dans sa vie.
Il y a un temps de repos nécessaire et il y a surtout un temps de réflexion nécessaire parce que les problèmes que la société rencontre aujourd'hui, nos sociétés rencontrent aujourd'hui, les problèmes modernes, nous n'avons pas de solution. Nous n'avons pas de solution à la gestion des déchets nucléaires, nous n'avons pas de solution à comment faire avec la masse de réfugiés qui arrive chez nous, nous avons très peu de solutions à comment éradiquer la pauvreté au sein de notre même pays. Pourquoi, alors qu'il y a tant d'initiatives un petit peu partout qui semblent réussies, comment ça se fait, et qu'on on est dans des pays où il y a quand même une richesse à disposition, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sortir des impasses dans lesquelles on est, et que nos hommes politiques n'arrivent pas à nous sortir de ça? Moi, je pense que justement, on a négligé le facteur temps, ce facteur temps que nous allons pouvoir nous réapproprier tous avec la mise en place d'un revenu de base. Je pense que ce n'est pas négligeable. Et que ça devient urgent de considérer qu'il nous faut tous prendre le temps. Penser, ça demande du temps. Imaginer, ça demande du temps. Discuter ensemble pour tomber d'accord, ça demande du temps. Libérer, justement, de la contrainte du travail, nous allons tous pouvoir nous réapproprier. Peut-être on gagnera un petit peu moins en termes de croissance. Peut-être ça va aller moins vite. Peut-être on va produire moins de déchets. Peut-être il va y avoir ce frein-là, justement, et que ça va nous faire tout drôle. Mais si on le regarde d'un côté positif, et si on se dit, faisons quelque chose d'intelligent de ce temps-là, réunissons-nous pour réfléchir, on a tous à y gagner.
Acceptons aussi peut-être de faire un peu moins en quantité, puisque toute notre surproduction crée un tas de surgâchis scandaleux. Pour faire de la qualité, justement. Prenons le temps de nous poser la question de qu'est-ce qui est essentiel pour l'humanité, de quoi on a envie. Et effectivement, tout ça, ça prend du temps. Et c'est parce qu'aussi, la plupart des gens n'ont pas le temps de se questionner sur tout ça qu'on avance la tête dans le mur et qu'on continue.
Je reprends, Valérie, ce que tu disais, là, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, le côté le plus positif, c'est libérer les énergies des jeunes qui veulent innover. Là, ils ont un revenu de base, donc ils n'ont plus ce souci de la recherche permanente de l'argent, d'argent de poche, de l'argent pour vivre, de loyer. Là, ce revenu de base va revenir, et ils vont pouvoir créer leur entreprise. Parce que, quoi qu'il arrive, même s'ils échouent dans leur entreprise, ce revenu de base sera toujours là pour eux, pour les aider, il sera inaliénable, on ne pourra pas le saisir. Donc on va permettre à ces jeunes, qui est une richesse pour notre pays, de se lancer dans de nouveaux jobs, dans de nouvelles activités. Ça va permettre aussi à des personnes de prendre du recul, comme dit, de travailler un petit peu moins, de partager leur temps de travail, et peut-être s'occuper des personnes âgées, des personnes malades qu'on délaisse à l'heure actuellement parce que notre activité ne nous permet pas, ou notre boulot ne nous permet pas de nous consacrer, s'occuper des enfants. Des enfants, au lieu d'avoir des nounous ou de payer une tierce personne, peut-être qu'en partageant le travail, on va pouvoir, ou l'homme ou la femme, on va pouvoir s'occuper de ces enfants beaucoup plus efficacement. Donc on va remettre du sens à toute la vie. Quoi.
Et du coup, là, ça va être aussi un grand pas en avant pour toutes celles, c'est souvent celles, mais et ceux qui se consacrent à la mission d'être père ou mère au foyer. Là, d'un coup, ce travail devient rémunéré. C'est fantastique, c'est parce que ça, on en parlait depuis longtemps en disant que la femme qui choisit de se consacrer à s'occuper du foyer, élever les enfants pendant que son mari va travailler, elle n'a aucun statut, elle n'a aucun revenu, elle est dépendante de son mari. Au niveau de l'estime de soi, c'est quand même pas très simple de se positionner. Mmh. Alors que là, elle a son indépendance, il a son indépendance, ce sont des choix personnels. Ça émancipe vraiment l'individu.
Par rapport à ce que tu viens de dire, quelque chose qu'il faut mettre en avant, une mère au foyer, Elle génère une richesse inouïe. Et elle fait son ménage. Je ne parle que la partie du ménage. Et ce qu'elle fait, c'est la richesse qu'elle produit dans le foyer ne rentre pas dans le calcul du PIB.
Bien sûr.
Une autre femme qui travaille dans les locaux de la radio pour faire le ménage, elle va toucher une indemnité, elle va rentrer dans le calcul du PIB. Pourquoi cette différence? Elle crée toutes les deux de la richesse, il y en a une qui est comptabilisée dans le PIB, l'autre pas.
Tout à fait.
C'est une injustice.
On peut prendre le même exemple avec la nounou qui s'occupe des enfants, qui est payée pour le faire, et la mère qui va, le faire aussi, elle n'est pas payée.
Exact.
Du coup, c'est générateur d'une grande équité, ce revenu. C'est pour ça que j'avais insisté au début sur le fait que ce soit un droit civique et que ça puisse même entrer dans la Constitution, c'est-à-dire que ça vient...
Il faut
que cela devienne un droit civique et que ça rentre dans la Constitution. Ça devient vraiment un droit de l'homme et de la femme.
Exact.
Et de l'enfant.
Oui, et de l'enfant, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, un nouveau chapitre passionnant. Comment concilier la croissance économique avec la préservation de l'environnement? Du coup, trois parties, le développement durable, et ensuite les deux visions, la soutenabilité faible et la soutenabilité forte. Ok? Allez, vous prenez des notes. Bon, ça vous intéresse pas? Ok, on va faire autrement.
Des 80, le rapport Brundtland sur la table signait la naissance du développement durable. Les nations prennent conscience des limites du PIB, qu'on appelle dans le métier les externalités. L'air et l'eau sont pollués, les ressources disparaissent. Pour nos enfants, dis-moi, qu'est-ce qu'on laisse? Durable ou soutenable, c'est la même notion. Ouais mais mec, en fait il y a deux dimensions. PIB, PIB, tout le monde ne jure que par le PIB. C'est une somme de valeur ajoutée. PIB, on ne parle que du PIB. La richesse créée au cours d'une année. Plus de pouvoir d'achat, moins de demande à Pôle emploi. Des recettes pour l'État et une dette qui s'en va. La croissance à tout prix, c'est la règle et c'est le but. Plus de classe, plus de lutte, juste plus de produits intérieurs bruts.
Dans les mers, les océans, de moins en moins de poissons.
De toute façon, dans le futur, on aura l'aquaculture.
Avec leur savant modèle théorique, les économistes
nous vantent les bienfaits du progrès technique.
Les innovations majeures seraient la conciliation
entre croissance économique et conscience écologique. PIB, PIB, tout le monde ne jure que par le PIB. C'est une somme de valeur ajoutée. PIB, PIB, on ne parle que du PIB. La richesse créée au cours d'une année. Plus de pouvoir d'achat, moins de demande à Pôle emploi. Des recettes pour l'État et une dette qui s'en va. La croissance à tout prix, c'est la règle et c'est le but. Plus de classe, plus de lutte, juste plus de produits intérieurs bruts.
La soutenabilité forte, c'est une autre vision.
La biodiversité serait non négociable
sans modification de nos modes de consommation.
La disparition des espèces devient inévitable.
Rien ne pourra remplacer le capital naturel.
Tout ça va faire de la terre une vaste poubelle.
Quand le climat sera totalement déréglé,
même le progrès technique ne pourra rien changer. PIB, PIB, tout le monde ne jure que par le PIB. C'est une somme de valeur ajoutée. On ne parle que du PIB. La richesse créée au cours d'une année. Plus de pouvoir d'achat, moins de demande à Pôle emploi. Des recettes pour l'État et une dette qui s'en va. La croissance à tout prix, c'est la règle et c'est le but. Plus de classe, plus de lutte, juste plus de produits intérieurs bruts.
Comme nous venons de le voir, ce PIB qui obsède les politiques et les économistes est un indicateur faussé pour mesurer la production de richesses d'une civilisation, puisqu'il ne prend en compte que les activités rémunérées. Et les autres alors? Serait-il possible de gagner sa vie lorsqu'on élève ses enfants? Lorsqu'on s'engage dans une association? Que l'on œuvre pour la solidarité et la créativité? Que l'on participe simplement par qui l'on est à créer un monde meilleur? C'est ce que propose le revenu de base, ou le revenu d'existence. On en parle aujourd'hui dans Les Enfants du Nouveau Monde. Alors, on peut peut-être parler de ça, la question du montant Parce que, bien sûr, ça brûle les esprits de tout le monde, oui, mais comment on le finance ? J'imagine que ce n'est pas le même montant qui est envisagé pour les adultes et les enfants non plus.
Donc, avant de parler du montant, pour vous dire, revenons un petit peu sur la charte qui est faite par le mouvement français des revenus de base. Le MFREB dit qu'il ne faut pas que le revenu de base puisse pénaliser les personnes qui se trouvent à l'heure actuelle au RSA. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit inférieur au RSA actuel. Ça, c'est le socle. Après, on peut aller chercher autre chose, on peut aller chercher le seuil de pauvreté médian, qui est de l'ordre de 830 euros, ou alors le seuil de pauvreté à 60%, où on avoisine les 1000 euros. Mais donner des chiffres comme ça, c'est bien aux politiques de décider le montant qu'ils vont allouer. Mais il y a une condition auxquelles on ne dérogera pas. Il ne faut pas que le revenu de base soit inférieur au RSA,
actuel. Bien sûr.
Après, si on veut parler de montant, moi, je me réfère, mais à titre personnel, je me réfère à une étude qui a été faite par Marc de Bastia. Marc de Bastia, c'est un ingénieur économiste. Il a repris la modélisation de Piketty. Et il a, en portefeuille, il a mis 816 000 familles dans sa modélisation, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris une mince affaire. Il y a eu 10 ans de travaux pour pouvoir sortir les résultats. Et Marc de Bastia, il dit qu'à l'heure actuelle, je schématise, mais en France, on a 152 mesures sociales d'aide de solidarité. Si, par un coup de baguette magique, on compile toutes ces 152 mesures, qu'on en fasse plus qu'une seule qui s'appelle le revenu de base, on peut, en appuyant sur un bouton magique, donner à tout le monde 450 euros par mois aux adultes et 225 euros par enfant en modifiant juste la fiscalité, c'est-à-dire on enlève la première tranche qui n'est pas imposable de 9 600 euros et on impose tout le monde à partir du premier euro à 23%.
D'accord. Alors, effectivement, aujourd'hui, le système redistributif français, c'est un casse-tête chinois. Personne n'y comprend rien. Ce qui est sûr, d'après, encore une fois, Marc de Bastia, qui a beaucoup étudié la question du revenu de base et dont je recommande la vidéo sur Internet, sa conférence est très, très détaillée et m'a permis de préparer donc cette émission. Du coup, ce qui est sûr, c'est qu'il faut simplifier ce système de redistribution auquel on ne comprend rien. La conclusion de ce système actuel, c'est que les classes moyennes sont les plus ponctionnées, chargées, etc. Donc ce qui alimente un énervement, un agacement qui peut aussi expliquer les montées des extrémismes et du Front National. Donc bien sûr, comme d'habitude, on leur donne un bouc émissaire au lieu de viser le vrai problème. Et en fait, il y a des grosses disparités entre ceux qui ne touchent rien, ont aucune aide, ceux qui sont quand même fortement aidés, ceux qui sont très ponctionnés et ceux qui ne le sont pratiquement pas, notamment, qui le sont beaucoup moins, c'est les rentiers. Donc c'est quand même assez inéquitable comme système aujourd'hui. Comment le rendre donc plus équitable et plus simple ? Apparemment, le revenu de base, ce serait une solution, mais ça ne serait pas la seule solution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer tout ce qui existe par le revenu de base. Le revenu de base ne se substitue pas à tout.
Dans le MFREB, et alors là, j'insiste parce qu'il se dit beaucoup de choses. Dans le MFREB, et notamment en se référant à l'étude de Marc de Bastia, on ne touche pas aux retraites. On ne touche pas à l'assurance maladie, on ne touche pas à l'APL, l'aide au logement, et on ne touche pas à la AAH, l'aide aux handicapés. Donc ça sera intouchable.
Ça viendra s'ajouter au revenu de base.
Ouais. Complètement. Par contre, toutes les autres mesures, par exemple les allocations familiales, elles seraient supprimées, mais remplacées par 225 euros pour chaque enfant.
Oui, puisque chaque enfant aurait aussi son revenu de base mensuel de 225 euros.
Donc on ne peut pas rentrer dans le détail aussi, mais du fait de donner 225 euros à chaque enfant, on va enlever cette injustice du quotient social, parce
que le
quotient social favorise les plus riches au détriment des plus pauvres, malgré tout ce que l'on peut penser.
C'est incroyable, cette information. Moi, je suis tombée dessus aussi, j'avoue que là, j'en revenais pas, donc je l'ai noté pour vous donner un peu une idée. Donc la redistribution en faveur des enfants, donc les allocations familiales, en fonction du revenu du couple, est complètement injuste, c'est-à-dire qu'un couple sans revenu,
c'est 183 euros en moyenne.
Super, si vous avez les moyennes, Joseph, je veux bien vous le dire.
183 euros à peu près pour le truc. Et on peut aller jusqu'à 400 euros pour des couples qui toucheraient aux alentours de 10 000 euros de revenus par mois.
Voilà, c'est-à-dire qu'un couple qui a un revenu au-delà de 4 000 euros, eux vont toucher à peu près 400 euros par enfant, alors que ceux qui n'ont aucun revenu touchent 180 euros.
Je précise bien, ce n'est pas 400 euros d'allocation familiale, voilà. C'est toutes les niches fiscales, les défiscalisations qu'on rajoute aux allocations familiales. Ça fait que chaque enfant génère une allocation familiale de l'ordre de 400 euros pour les familles les plus riches.
Donc là, dans les chiffres qu'on a dit, ça inclut donc les allocations familiales, complément familial, allocation rentrée, supplément RSA calculé en fonction du nombre d'enfants et donc les réductions d'impôts. Exact. Voilà, ça inclut tout ça. Donc effectivement, il serait temps d'avoir quelque chose d'un petit peu plus équitable.
Oui, d'autant plus que tous ces petits calculs qui... Alors moi, j'en suis très éloignée, je pense que je ne dois pas être la seule. Et il me semble que ce n'est pas si important que ça d'être au fait de toutes ces petites choses économiques pour pouvoir intégrer et comprendre l'intérêt de l'idée du revenu de base. Voilà.
Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'incompréhensibilité du système actuel cache des inégalités dont personne n'est au courant.
Oui, mais le système actuel, nous sommes forcés de constater qu'il ne fonctionne pas.
Ah bah oui, tout à fait.
Donc finalement, c'est pas si important, ces petites histoires de calcul pour moi. Il me semble, il y a quand même un fait qui est que quand on est arrivé sur Terre, il n'y avait pas d'argent. Et l'activité humaine a produit de la richesse. Aujourd'hui, il y a donc 223 000 milliards de dollars sur Terre de richesse qui appartient globalement à 8% de la population. Donc notre système de répartition des richesses, de toute évidence, ne fonctionne pas. Voilà.
Voilà. Donc, je voulais juste finir sur l'étude de Marc de Basquiat. En compilant toutes ces mesures sociales, on arriverait à avoir un revenu de base de l'ordre de 450 euros pour les adultes, je parle bien. Et ce que je dis, l'extrême importance de ce chiffre-là, je parle des jeunes de 18 à 25 ans. À l'heure actuelle, les jeunes de 18 à 25 ans
n'ont droit à rien.
Je dis strictement à rien. Ils sont à la merci de leurs parents, ils sont à la merci des bourses d'études, ils sont à la merci de Paul, Pierre ou Jacques. Tandis que là, chaque enfant majeur toucherait un revenu de base qui sera de 450, 500, 600, 700 euros. Je ne sais pas, je ne donne pas le montant. C'est
Merci d'insister là-dessus, Joseph, parce qu'il en va vraiment de la dignité humaine. Il y a beaucoup de jeunes, justement, qui sont dans des situations de rupture familiale et qui n'ont aucun revenu et qui se retrouvent sur nos trottoirs à tendre la main, comme on en voit tant et de plus en plus. Du coup, il est vraiment temps qu'on se...
Tout ceci est une question de dignité humaine, au départ.
Oui, tout à fait.
Là, on l'aborde d'un point de vue philosophique, économique et politique, mais la réalité, est-ce qu'on va supporter encore longtemps qu'il y ait des gens qui aient froid et qui aient faim dans un pays aussi riche que la France ?
Merci de me tendre la perche, Valérie, parce que j'avais envie de revenir sur cette question avec la pyramide de Maslow, qui était un psychologue, sociologue du 19e siècle, qui est le père fondateur de l'approche humaniste, et qui a fait cette pyramide pour expliquer en fait les différents besoins humains, et que tant qu'on n'a pas répondu aux besoins de la base de la pyramide, on ne peut pas s'élever dans la pyramide. Donc, il y a vraiment une urgence à remplir les besoins les uns après les autres pour pouvoir construire cette pyramide et être un humain réalisé et être un humain dans toute sa splendeur. La première étape, évidemment, ce sont les besoins physiologiques. Donc, ça va être se vêtir, pouvoir se nourrir correctement, s'abriter, se chauffer, éduquer ses enfants, ça fait partie aussi de ça, les besoins physiologiques de base. Une fois que ce premier besoin est rempli, ce qui n'est encore même pas le cas dans notre société qui se prétend un pays développé, qui a le souci du bien commun, on n'en est même pas là. Il y a encore des failles à ce niveau-là, puisqu'il y a des gens qui ne peuvent pas répondre à leurs besoins physiologiques correctement. Exactement.
Et de plus en plus.
Donc là, on voit vraiment qu'il y a un bug, qu'il y a un problème à résoudre. La deuxième étape, c'est les besoins de sécurité. Là-dedans, on peut entendre la sécurité physique, mais on peut aussi entendre une certaine sécurité
financière,
exactement. Voilà. Et du coup, le revenu de base, il vient répondre aussi à cette question-là. Joseph parlait tout à l'heure
d'inaliénable.
Le revenu de base qui peut, en étant justement inaliénable, peut aider les gens à se lancer dans des activités. Comment oser se lancer dans sa propre activité si on n'a pas un filet de sécurité en dessous? Il y a des gens qui ont des idées, qui ont envie de créer leur entreprise, mais ils ont peur que ça ne marche pas financièrement. Et entre-temps, il faut manger, il faut faire manger les enfants. Donc, ils ne se lancent pas et ils vont faire un boulot alimentaire. Donc, effectivement, en ayant cette sécurité financière, Après, on peut passer à l'étape au-dessus. Et le besoin supérieur, c'est le besoin d'appartenance. Mmh. Appartenir à une société, appartenir à une famille de pensée, appartenir à un groupe. Là, déjà, on commence à pouvoir créer de la cohésion dans la société. Mais tant qu'on n'a pas rempli ces deux étapes-là, on n'est que dans la guerre, on a peur. Si le voisin, il est trop près, il va nous prendre ce dont on a besoin.
Et qui dit appartenir, dit envie de participer.
Exactement.
La dépolitisation des jeunes et le taux d'abstention, c'est rigolo.
Peut-être aussi.
D'abstention dans les différentes élections montre bien qu'il y a non pas un désintérêt pour la chose politique. Moi, je n'y crois pas du tout. Je trouve que les gens sont de plus en plus intéressés par ce qui se passe justement.
Ils sont dégoûtés.
Mais l'implication, quand vos besoins primaires justement ne sont pas assurés, c'est pas la priorité.
Ouais, tout à fait. Et alors après, au-delà du besoin d'appartenance, là on est à peu près au milieu de la pyramide, on a le besoin d'estime de soi. Mmh. Et c'est là que vient justement ce qu'on disait, c'est qu'on ne peut pas rester des semaines et des mois à se dorer la pilule au soleil. À un moment donné, on a besoin de créer des choses qui nous rendent fiers de nous-mêmes. Donc le besoin d'estime de soi, et on termine avec le sommet de la pyramide, avec le besoin de réalisation, de se réaliser pour ce qu'on a envie de mettre en place et de faire dans ce monde, dans cette vie. Voilà. Donc merci Abraham Maslow pour cette pyramide des besoins qui est quand même très, très intéressante et qui nous permet de voir à quel point c'est important déjà qu'on puisse consolider les deux premiers étages de la pyramide qui sont les besoins physiologiques et les besoins de sécurité. Et effectivement, le revenu de base semble être une très très bonne solution pour tout ça.
Et je crois que ça rejoint l'article 25 de la Déclaration des droits de l'homme que je ne connais pas par cœur.
Là.
Merci.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour s'assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans son article 1er et l'article 25. Le MFRB s'est appuyé sur cette Déclaration des droits de l'homme pour bâtir tout le processus du revenu de base.
Alors, bien sûr, on recommande à tous nos auditeurs, auditrices, d'aller sur le site du Réseau français pour le revenu de base. Je vais quand même lire la définition du revenu de base depuis le MFRB. Donc, c'est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique, donc un pays, une région, etc., à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle. Alors ça, je me permets une petite parenthèse, c'est vrai qu'avec le RSA, si on est tout seul, on touche 400 et quelques. Si on est en couple, c'est 600. Ah bon, mais deux RSA individuels, ça ferait 800. Eh ben oui, mais vous êtes en couple. Ah ben dis donc, ça incite pas à être en couple, hein, votre histoire. Donc c'est ce côté de l'État qui vient comme un inquisiteur à savoir est-ce que vous êtes en couple, pas en couple, etc. Là, il n'est plus question de ça. C'est sur base individuelle. Chacun touche en son nom ce revenu de base. Je continue. Sans contrôle des ressources, donc il n'y a rien à prouver, ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Donc ça, c'est à des calculs selon les pays, les aides en place, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Ça, après, c'est tout le travail qui reste à faire pour mettre ça en place. Une question qui titille aussi souvent, c'est « Bon, alors d'accord, on va avoir le revenu de base, on pourra dégager du temps pour faire les activités dont on a envie. Oui, mais alors les sales boulots. Les sales boulots. Les boulots que personne ne veut faire. Qui va les faire ?» Joseph,
Les sales boulots se font exactement de la même façon, sauf qu'on va inverser le rapport de force. Donc, quelqu'un qui devra faire un sale boulot, les éboueurs, les égoutiers, pourront négocier leur salaire plutôt que de se contenter de ce qu'on leur donne parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Là, ils seront en mesure de négocier leur salaire et valoriser leur salaire. Et donc, il y aura de la considération qui sera prise et ce ne sera plus un côté dédaigneux que l'on a sur ces personnes-là. Donc c'est encore un avantage considérable du revenu de base pour toute cette frange de la population. Voilà.
Oui, et moi je voudrais rajouter, il y a un peu d'hypocrisie quand même dans cette histoire de sale boulot qui va disparaître de toute façon également, mais qui sont les derniers à disparaître, et c'est pas pour rien. On peut voir d'ailleurs, les éboueurs sont remplacés par des machines qui attrapent les conteneurs et vident dans le camion dans la plupart des grandes villes aujourd'hui. Mmh. Donc les sales boulots, de toute façon, vont également disparaître. Mais pourquoi c'est les derniers à disparaître? Pourquoi on n'a pas misé, on n'a pas mis toute notre savoir-faire et notre technologie à faciliter la vie, à faire disparaître les éboueurs, par exemple? Pourquoi on a commencé d'abord par des boulots, justement,
cadres supérieurs,
etc. C'est pas pour rien. Ce serait intéressant de se pencher sur la question. Mais de toute façon, les sales boulots seront les dernières roues de la charrette, mais ils sont amenés à disparaître également. L'automatisation va être généralisée.
Effectivement, avant qu'ils disparaissent, parce qu'il restera peut-être quand même des boulots pas forcément très épanouissants à effectuer, pour lesquels on a besoin encore de main-d'œuvre humaine. Donc, on imagine qu'avec le revenu de base, ça entraîne forcément qu'ils soient mieux rémunérés, puisque sinon personne ne voudra les faire, donc il faudra qu'ils soient mieux rémunérés, offrir de meilleures conditions de travail également, plus de sécurité.
C'est là que l'humain va retrouver sa dignité.
Tout à fait.
Parce que qui nettoie soi-même sa propre merde, excusez-moi, retrouve un peu de dignité, justement.
Oui, tout à fait. Et ouais, du coup, c'était une autre possibilité, c'est qu'effectivement, ces sales boulots soient plus pris en charge de façon...
mieux considérés ou mieux payés. Si vraiment aussi on n'a pas envie de le faire soi-même, bon, il y a des gens qui n'ont pas envie de le mettre les mains dans le cambouis, pourquoi pas. S'ils veulent vraiment que quelqu'un le fasse à leur place, il faut qu'ils le payent en considération.
Vous écoutez Les Enfants du Nouveau Monde, et tout de suite, c'est Carmen Maria Vega sur Radio 16.
Donc c'est sur un texte de, si je ne me trompe pas, un texte de Brice Hortefeux et une musique de Bill Gates. Voilà, cette chanson s'appelle « Qu'est-ce qu'ils sont cons ?» Ok.
On leur dit des efforts, ils disent « Ok ». C'est de votre ressort, ils disent « Ok ». Qu'est-ce qu'ils sont cons ? On leur dit « Ça augmente », ils disent « Ok ». On leur dit ça augmente encore, ils disent ok, qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit c'est la crise, on leur fout la trouille, on les culpabilise, la croissance part en couille, sauvez nos entreprises, défendez donc vos fouilles, ne voyez-vous pas les enjeux? Vos emplois sont en jeu, allez, achetez, 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 achetez. On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous. Vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. On a le monde à notre balle, ces milliards ne fait qu'un moyen qui baisse. Dociles malades culottés qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont pauvres, qu'est-ce qu'ils sont bons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous. On leur dit eux méchants, ils disent ok, qu'est-ce qu'ils sont. On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok, qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout. On dit insécurité, on dit état policier, allez, paniquez, 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 paniquez. On a le monde à notre droite, ces milliards, ne fait qu'un moyen qui baisse.
Faites plus en plus chaud, faites plus en plus noir, pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Lâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer.
Respirez plus. Enfin, jusqu'à l'instauration du revenu minimum de base. Ça, ça nous inspire dans les enfants du Nouveau Monde.
Une autre question qui peut tarauder l'esprit, c'est à quoi ça sert de donner un revenu supplémentaire en donnant le revenu de base aussi aux riches ?
Mais l'universalité du revenu de base, c'est le donner à tout le monde. Bien sûr, on va dire, Madame Bettencourt, on n'a pas besoin d'un revenu de base, ça c'est pratiquement sûr. Mais il faut savoir que si on donne aux riches ou aux classes moyennes un revenu de base, ce que l'on va donner d'une main, on va le reprendre par le biais de l'impôt de l'autre. Le fait de donner ce revenu de base à toutes les classes, françaises, on va supprimer d'un côté la stigmatisation. Qu'est-ce qu'on entend à l'heure actuelle ? C'est grâce à mes impôts que ces gens-là restent sans à rien faire. Alors que c'est faux. C'est faux. C'est un impôt commun, au même titre que la retraite ou la caisse d'assurance maladie, c'est un impôt commun et on contribue tous. Le fait de donner le revenu de base aux riches et aux classes moyennes, ben, on ne pourra plus entendre ces mots qu'on entend, on n'aura plus à entendre cette stigmatisation sur les gens, entre guillemets, qui sont laissés pour compte sur le bord de la route, ou peut-être des personnes, des étrangers qui sont en France. Donc il faut impérativement que ce revenu de base aille dans tous les foyers, systématiquement tous les foyers, justement pour éviter ces polémiques stériles.
C'est vrai qu'on fera tomber donc cet argument totalement illusoire de dire « Ah ben, t'as pas de travail, t'es un paresseux » ou « Tu cherches pas à en avoir ». Aujourd'hui, il n'est plus question de ça. Quand on étudie effectivement ce chômage structurel qui fait partie de l'organisation de la société, et puis c'est pas parce qu'on n'a pas un emploi qu'on n'est pas actif. Regardons les retraités.
Moi, je me suis longtemps occupée de chômeurs et de personnes qui n'avaient pas d'activité, pas d'emploi. Ils n'étaient pas à court d'activité et la journée était chargée. Par contre,
j'en suis un bel exemple en tant que bénévole.
Si on regarde les personnes les plus riches de ce monde, je porte pas de jugement, j'ai pas du tout envie de les critiquer, mais en termes d'activité, elle est très très réduite. Moins on en fait, il semblerait dans ce monde que moins on en fait, plus on est riche.
Alors avant de conclure, puisque notre émission touche à sa fin, où en est-on au niveau politique, puisque je sais que la politique est en train de se saisir vraiment de cette idée, de droite comme de gauche actuellement. Où est-ce qu'on en est là ? 2017, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Qu'est-ce qui va se passer en France ?
Alors, je rappelle simplement que tout à l'heure, on a parlé du rapport du numérique qui préconisait la mise en place d'un revenu de base. Il y a eu le rapport du Sénat en octobre 2016, présidé par M. Percheron, qui dit quoi ? Il dit simplement, il préconise la mise en place du revenu de base au niveau départemental, sur une population de 20 000 à 30 000 personnes, et pour un coût annuel estimé à 160 millions d'euros pris en charge par l'État. À l'heure actuelle, où on en est, mais il faut que les départements, il faut que les politiques ou les personnes qui se sentent concernées par le revenu de base fassent pression sur leurs dirigeants politiques de telle façon à ce que leur département soit volontaire pour expérimenter le revenu de base. Alors n'hésitez pas à saisir vos parlementaires, vos sénateurs, vos maires ou les organes politiques de votre département. Il faut absolument que le revenu de base puisse être expérimenté à cette échelle-là, et pour en tirer les conclusions et peut-être le généraliser dans les 2 ou 3 prochaines années en France.
Ben merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous d'être venu. On peut redonner le site internet, donc c'est tout simplement revenudebase.info. Voilà.
Et il y a deux numéros de téléphone pour les personnes qui, dans le Gard, veulent se rallier à des groupes déjà existants, mais il y en a dans tous les départements. Le numéro de la région Uzès-Alès, donc le 06 19 95 06 97.
Et pour le revenu de base en Ramon-Gard, le 06 06 76 39 87. Je profite qu'on conclue. Si vous souhaitez que l'on se déplace, si vous souhaitez qu'on vienne faire une projection de débat sur votre commune ou dans votre quartier, n'hésitez pas à nous appeler. On a tout le matériel, on a les vidéos, les films. Il ne nous manque plus que le temps de venir vous voir et surtout votre invitation. À bientôt peut-être.
Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup.
Merci à vous.
My gang will get you. Retrouvez les enfants du Nouveau Monde tous les lundis, une semaine sur deux, le matin ou le soir, soit 8h30, 9h30, soit 18h30, 19h30 sur Radio 16. Toutes les émissions sont également écoutables quand vous voulez sur radio16.net.